Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là? Ah oui, vous êtes là, d'accord, d'accord. Je crois que vous commencez à dormir un peu déjà. Bon, ça va. Voilà, content d'être avec vous ce soir. Merci à Pasteur Eric, son épouse, de m'avoir invité. Donc ça fait, ouais, ça fait un an. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur Reims. Voilà, on a pris nos fonctions, on était sur Mulhouse pendant 4 ans. On nous a demandé de reprendre une église qui était en difficulté, voilà, et on a passé 4 ans là-bas. On a vraiment vu Dieu se manifester de manière merveilleuse, et puis on nous a demandé de reprendre une autre église en difficulté sur Reims, donc du coup, et on est arrivé. En tout cas, moi, je suis monté sur Reims depuis 2 ans. Je montais une semaine par mois, en fait. J'étais à l'hôtel et puis je m'occupais de l'église. On a fait ça pendant 1 an et l'année dernière, on a déménagé complètement avec mon épouse, ce qui était prévu. On voulait terminer ce qu'on avait commencé sur Mulhouse et ensuite démarrer quelque chose de nouveau sur Reims. Donc, on découvre la région. On découvre les 08, les 02, les 51, voilà, tout cela. Je ne ferai pas de commentaires. Et on découvre le champagne, on découvre, mais pas que ça, on découvre aussi la gastronomie, hein, dans le coin aussi, dans les Ardennes. C'est sympathique aussi. Hein. Il y a de bonnes choses un peu partout en France. Hein. Je vois que notre territoire est vraiment riche et on veut profiter, voilà, de tout cela. On est là parce qu'on a découvert, comme vous, j'imagine, que le Seigneur est infiniment grand. Alléluia. Il est vraiment infiniment grand. C'est un Seigneur vraiment exceptionnel, merveilleux, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le ministère, déjà le travail que nous avons déjà, que nous faisons depuis plusieurs années. Donc, Eric vous a parlé qu'on était un petit peu dans la mission à une époque. C'était avant toutes ces situations. On a fait pas mal voyagé, on a fait le Burundi, pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on a vu un Dieu infiniment grand se manifester. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, pour peut-être nous rappeler parfois à nous, les chrétiens qui sommes là depuis longtemps, qui sommes chrétiens depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et j'en passe. Peut-être nous rappeler que Dieu, lui, n'a pas changé en fait. Il est vraiment toujours le même. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Voilà, je disais que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça vous a pas l'air de trop vous exciter en fait, hein, mais je connais des endroits en Afrique, on n'a pas le temps de dire ça, les gens ils sont debout sur les chaises, ils commencent à taper des mains, etc. Bon, je sais, nous les bons Français, on va dire qu'ils sont excentriques, qu'ils en font un peu trop, qu'ils ne sont pas tant sanctifiés que ça, etc. Puis on en passe. Hein. Mais en réalité... je crois que parfois c'est bon aussi de pouvoir manifester notre foi. Ouais. C'est-à-dire que je crois que parfois il est important de manifester au Seigneur que nous avons vraiment soif de lui, que nous avons vraiment besoin de lui, que nous avons vraiment faim de lui. Et je pense que c'est important que nous puissions manifester corporellement, verbalement aussi parfois les choses. Alors encore, je sais bien, hein, en tant que bon Français, c'est compliqué pour nous, hein, parce que voilà, nous, on est très réjouis, mais à l'intérieur. Hein? Oui, voilà. Ou alors on est très triste, mais c'est à l'intérieur aussi. Vous voyez, c'est tout à l'intérieur. Nous, on explose de joie intérieurement. Bon, sauf dans les stades de foot, apparemment, hein, ou dans les gymnases, quand il y a des sports, il y a des trucs collectifs, quand il y a de la compétition, quand... voilà, moi, j'ai fait plus de 15 ans d'arts martiaux. Je peux vous assurer que dans les gymnases où on était, dans les dojos, etc., les gens, ils n'avaient pas la bouche fermée. Hein, ça criait, ça hurlait, ça encourageait. Et c'est bizarre, hein, quand on retrouve les mêmes personnes converties dans une église, il n'y a plus rien. On est là, on est dans un mutisme. On est dans le politiquement correct. Il faut être politiquement correct. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que je crois que Dieu a besoin de savoir ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies. Et qu'est-ce que nous voulons vraiment? Ah, bien sûr, vous allez me dire, mais frère, vous n'êtes quand même pas censé savoir que Dieu lit dans nos cœurs, il connaît nos pensées, c'est pas la peine qu'on soit exubérant, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord, je sais que c'est pas l'exubérance qui va faire mouvoir le bras de Dieu. En réalité, Dieu connaît nos pensées, c'est certain, il connaît tout. D'ailleurs, souvent, ça nous remet en cause nous-mêmes dans la prière. Si vous avez remarqué, parce que souvent on dit des choses à Dieu qu'il connaît déjà. Du coup, on perd du temps et on lui fait perdre du temps. Donc la prière, c'était une nouvelle notion qu'il va falloir peut-être découvrir un jour, et découvrir que dans la prière, l'objectif, c'est pas d'apprendre des nouvelles choses à Dieu, parce qu'il connaît déjà tout, mais c'est peut-être d'entrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec lui, pour que lui nous révèle comment il va exaucer la prière. La soif de Dieu. Une autre définition, une autre perception de la relation, justement, avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je suis complètement à côté du message que je voulais vous apporter tout à l'heure, mais ça ne fait rien, on va continuer un peu dans ce sens-là. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est cette notion de politiquement correct, d'expression, des fois ça nous bloque la bénédiction de Dieu, ça bloque la guérison dans nos vies, ça bloque le renouvellement, ça bloque la régénérescence, ça bloque en fait tout ce que le Saint-Esprit aimerait vraiment vous accorder, nous apporter, ça bloque un certain nombre de choses. Et je crois qu'avec Dieu, même dans l'Église, nous devrions, vis-à-vis de lui, exprimer ce que nous voulons vraiment recevoir. D'ailleurs, c'est biblique. La Bible dit « Demandez et vous recevrez, peut-être, peut-être pas. » Non ? Ben oui, vous recevrez. Alléluia, c'est sûr. Demandez et vous recevrez. Par conséquent, si je ne demande pas, ben voilà. Et on a une multiplicité de versets comme ça qui nous montrent que nous devons, avec Dieu, être dans la simplicité, mais aussi dans cette liberté d'exprimer, de partager, de manifester nos émotions, nos sentiments auprès du Seigneur, pour montrer véritablement ce que nous voulons. Vous avez un homme qui a excellé dans ce domaine-là, c'est le roi David. Un jour, un pasteur m'a dit, tu sais, quand tu prêches en formation, il faut comprendre que c'est de la formation pastorale, formation pour les prédicateurs. Il disait, vous devez surtout pas transmettre des émotions lorsque vous prêchez. Ah bon ? Mais on est qui ? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On n'est pas des lettres à écrire qu'on va tout simplement diffuser un message. Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis corps, âme et esprit. Et dans cette triple partie qui forme ma personnalité, ben, y a aussi de l'émotion. Si on ne veut pas des émotions, ben, déjà, on déchire les trois quarts des psaumes. Parce que les psaumes, c'est essentiellement que la manifestation émotionnelle de ces hommes de Dieu. David, il déverse ses joies, mais il déverse aussi ses colères, il déverse ses doutes, il déverse ses inquiétudes, il déverse ses victoires, il déverse ses péchés, ses fautes, il déverse tout ce qu'il vit au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on dit, mais il est où Dieu? Il n'agit pas, il ne se manifeste pas, il est... Mais Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Dieu guérit encore aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais on le voit pas beaucoup. Ben si, on le voit. Ben oui, et ben voilà. Et nous, on le voit régulièrement. Tous les mois, on a un témoignage de guérison. Parfois, tous les 15 jours, il y a quelque chose qui se passe. On voit des hommes et des femmes qui ont été guéris par le Seigneur. Guéris émotionnellement, guéris intérieurement, guéris physiquement. Des hommes et des femmes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Oui, encore aujourd'hui, des hommes et des femmes vivent des choses puissantes avec le Seigneur. Cette semaine, je voyais une gamine de 22-23 ans, ça pourrait être ma fille, elle vient, elle me dit, ça fait quelques mois que je viens à l'église maintenant, une copine m'amène, pourtant je suis né dans une famille chrétienne, au pays, j'ai été baptisé, j'avais 8-9 ans je crois, puis voilà, j'ai tout laissé comme ça, je n'ai pas trop compris pourquoi je m'étais engagé comme ça. Et puis elle me dit, depuis quelques mois que je viens ici, j'écoute le message, quelque chose qui se passe. Alors elle me raconte un petit peu son témoignage, etc. Puis moi j'essaye de creuser un petit peu et je lui dis, mais qu'est-ce que tu vis vraiment? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin finalement avec Jésus? Qu'est-ce qui fait? Elle me sort le mot que chaque croyant, chaque chrétien, que nous devrions vivre régulièrement. Elle me dit, je sais pas comment vous le dire, pasteur, mais j'ai eu comme une révélation de Jésus-Christ. Et je dis, voilà, le secret, il est là. La révélation de Christ. Et vous savez que la révélation, frères et sœurs, de Christ, c'est pas que pour des païens qui ensuite donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais nous, chaque jour, nous avons besoin d'une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Quand je parle de nouvelles révélations, je ne parle pas de quelque chose de nouveau, de bizarre, de farfelu. Je ne parle pas de quelque chose d'étrange, d'étonnant, qu'on n'a encore jamais vécu. Non, quand je parle de révélation, c'est simplement d'avoir cette révélation de la présence de Dieu, la révélation de son amour, la révélation de sa compassion, la révélation du fait qu'il souhaite être régulièrement en intimité avec nous. Jésus revient bientôt. Je sais, on dit depuis 2000 ans, mais en réalité, il n'a jamais été aussi près aujourd'hui que hier. Il revient vraiment, les choses sont en train de passer dans ce monde, les choses sont en train de se mettre en place, nous on pourrait les oublier, mais en réalité, tout est en train d'être préparé pour la venue du Seigneur. Les choses, elles sont là. Notre vraie question, c'est est-ce qu'on a soif du Dieu vivant et vrai encore aujourd'hui ? Avons-nous vraiment cette soif ? C'est quelque chose qui est indispensable si nous voulons voir Dieu agir. Et si nous avons cette soif, nous ne devons pas simplement lui dire, mais nous devons exprimer aussi, manifester corporellement, verbalement, que nous voulons davantage du Seigneur. Et pas simplement une petite touche, pas simplement un petit moment émotionnel, non, nous voulons vraiment une visitation profonde, une révélation réelle de Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, quand on a cette révélation, ça bouleverse complètement notre existence. Ça nous remet en question, même quant à notre péché, quant à notre vie qui... Alors pas ici, je pense que vous n'êtes pas du tout concernés, hein, pasteur m'a dit que vous êtes une église vraiment extraordinaire et formidable à Charleville, donc je parle juste pour les autres églises que j'ai connues ailleurs, dans d'autres endroits. Mais vous savez, je me rends compte en circulant dans les églises depuis plusieurs années, je crois qu'en France j'ai dû faire plus de 270 à 280 églises. Rien que des missions, des tournées à l'époque quand je présentais Sentinelle de prière, etc. Et sans compter tout ce que j'ai pu faire à l'étranger. Et pourquoi je vous dis ça ? Pas pour me vanter, pas pour me mettre en avant, ça n'a aucune sorte d'importance. Mais j'ai remarqué une chose dans la plupart des églises dans lesquelles je passais. C'est qu'au fur et à mesure des années, parfois, au fur et à mesure de nos habitudes de vie, de nos traditions d'église, on s'habituait avec les choses. On s'habitue à notre style de culte, on s'habitue à une certaine forme de tradition, même dans nos églises, on critique les catholiques, les protestants, mais en réalité, qu'on soit baptiste, qu'on soit pas pentecôtiste, qu'on soit ménonite, que vous prenez tous les istes que vous voulez, adventiste et tout le reste, on est tous pareils, on finit par s'habituer. On a une liturgie de culte. Qu'on le veuille ou non, en réalité, on a une liturgie qui nous rassure, on est comme attaché, on sait qu'il va y avoir des chants, la prière, la prédication, le machin. Tout est cadré parce que ça nous rassure. Mais dans tout cela, on se dit, mais où est vraiment la vie de l'esprit ? Où se trouve la puissance de la liberté du Saint-Esprit dans notre vie ? Je ne suis pas en train de dire que nos cultes, nos réunions, etc., on doit vivre n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Ce n'est pas ça dont je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, on a tellement mis le Saint-Esprit dans une boîte, dans un cadre, dans une certaine forme de conformité qui nous rassure, nous, et bien finalement, il n'a plus la possibilité, voire même l'autorité, de faire lui ce qu'il veut au milieu de nous. Et nous, le résultat, c'est quoi ? On pleure. On dit « Seigneur, t'es où ? Il n'y a plus tant de miracles, il n'y a plus tant de ceci, il n'y a plus tant de conversion, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Où tu es ? Les gens ne te veulent pas. » En réalité, il est là. Il n'a pas changé. Mais souvent, nous ne lui permettons plus de faire ce qu'il veut faire, comme il veut le faire et à la manière dont il veut le faire. On demande à Dieu d'agir selon notre compréhension. On demande à Dieu d'agir selon notre entendement, selon la manière dont nous voyons les choses, où nous pensons les choses. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, et là j'enlève tous les is, parce que moi je prêche dans toutes les communautés qui m'invitent, donc même si je suis pasteur assemblée de Dieu, ça fait 20 ans que je tourne dans toutes sortes d'églises à droite à gauche, et en réalité, nous avons besoin, chacun d'entre nous, et l'Église de Jésus-Christ avec un grand E, nous avons besoin d'un renouvellement, d'une régénération personnelle pour rentrer à nouveau en contact avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est indispensable pour notre vie. Sinon, nous allons mourir dans les situations qui sont les nôtres aujourd'hui. Je disais que je tournais dans beaucoup d'églises et je remarquais qu'au fur et à mesure, parfois des années de conversion, eh bien, même les chrétiens n'avaient plus véritablement de haine envers le péché, mais finissaient petit à petit par caresser même le péché, adapter le péché à leur style de vie, ne plus être choqué, perturbé, blessé, culpabilisé par le péché. Mais parce que ça revient de manière cyclique, alors on le laisse prendre de plus en plus de place. Et je suis tellement étonné de voir que dans bien des églises, des hommes, des femmes, des frères et sœurs sont comme enfermés encore dans des vieux péchés qui datent de je ne sais combien de temps et qui reviennent là, présentement, et qui sont comme cycliquement des pièges dans lesquels les uns, les autres finissent par tomber. Regardez aujourd'hui tous ces gens qui sont pris par toutes formes de dépendance. Dépendance au jeu, dépendance à l'argent, dépendance au mensonge, dépendance à la sexualité pervertie, dépendance à la pornographie, dépendance, et ça commence toujours de plus en plus tôt. On pensait que c'était que les hommes. Aujourd'hui, de plus en plus de filles, de plus en plus de femmes sont infectées de la même manière, et on se rend compte que finalement le péché s'étale dans l'Église, mais on n'en parle pas, on dit rien parce que c'est honteux, alors on veut absolument rien dire, sauf que nous avons en fait des hommes et des femmes qui sont en souffrance. Des hommes et des femmes qui en ont assez de leur vie spirituelle. Des hommes et des femmes qui disent du bout des lèvres qu'elles ont soif d'un Dieu vivant, mais n'osent pas prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour se remettre en question. Et de dire une fois pour toutes, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que Dieu change notre vie ? Un des versets les plus puissants de l'Écriture que l'apôtre Paul va utiliser dans Romains comme dans Éphésiens, il va nous dire « Soyez renouvelés dans votre intelligence, soyez régénérés ». C'est pour moi un des versets les plus puissants de l'Écriture parce qu'au travers de ce verset-là, j'ai vu des quantités de miracles s'accomplir. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans notre vie commence là. Tout ce que nous permettons dans notre vie, même le péché que nous pouvons parfois permettre, encore une fois, pas ici, hein, mais vous pouvez le communiquer à d'autres personnes, mais tout commence là en fait. Tout commence dans notre esprit, c'est-à-dire dans nos pensées, la manière dont nous avons été éduqués, la manière dont nous avons grandi, notre histoire de vie, les blessures du passé, les souffrances du passé, les joies du passé, les peines du passé, les chocs émotionnels du passé. Tout cela nous a construits et nous avons toutes sortes de filtres dans notre esprit et tout commence là par une pensée qui vient. Le diable connaît comment nous avons vécu et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, l'ennemi va essayer d'utiliser ses failles, ses pensées pour justement essayer de pénétrer, d'entrer dans nos vies et nous éloigner de la présence de Dieu, de nous éloigner de son esprit. Il va nous bombarder chaque jour de dizaines et de dizaines de pensées malsaines, mauvaises, qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons envie d'accomplir, ce que nous avons envie de faire. Et nous sommes comme oppressés, mais l'apôtre Paul nous parle de ces choses-là. Et il nous dit, mais soyez renouvelés, soyez régénérés dans vos pensées, afin que vous puissiez amener aussi vos pensées captives à celles de Jésus-Christ. Il y a une démarche spirituelle, nous avons besoin d'exprimer, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin vraiment d'exprimer à un moment donné ce que nous voulons vraiment. Est-ce que nous voulons vraiment voir Dieu se manifester ? Est-ce que nous voulons vraiment nous repentir de nos mauvaises conceptions, de notre mauvaise vie, de choses qui sont entrées dans notre existence et que nous n'avons plus combattues ? Nous les avons combattues un temps et nous ne les combattons pas. Nous ne les combattons plus, nous avons baissé les bras. Parfois, c'est le mauvais caractère, c'est des mauvaises attitudes, c'est des vies de couple où il y a constamment des disputes, constamment des conflits, mais on dit plus rien, on laisse faire, parce que du coup, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de possibilités, donc on laisse les choses comme cela. Et finalement, mais est-ce que nous sommes vraiment, chaque jour, du coup, à l'image de Jésus-Christ ? C'est là la question que nous devrions nous poser. Pourquoi nous devrions nous poser cette question-là ? Parce que la Bible nous dit que Jésus va venir reprendre son Église. Et son Église, c'est qui ? C'est quoi ? C'est pas simplement des hommes et des femmes qui un jour ont pris un baptême. C'est des hommes et des femmes qui ont continué de laisser travailler leur pensée, leur cœur, leur mentalité, leur caractère, leur vie, par la puissance de l'Esprit, jour après jour, quotidiennement, pour quel objectif ? Ressembler toujours plus à Jésus. C'est ça le temps que nous avons sur notre vie chrétienne ici, ici-bas. Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Dieu nous a donné la vie pour façonner notre caractère, développer le royaume de Dieu, contribuer au salut des âmes, pour que lorsqu'il façonne notre vie, lorsque c'est le temps qu'il vienne nous chercher, nous soyons toujours plus semblables au Fils. Si nous avons arrêté de travailler dans ce domaine-là, nous péchons. Nous manquons quelque chose. Nous manquons un but. Et le Seigneur risque de revenir et d'en laisser beaucoup. Qui donne l'impression d'être là, qui donne l'impression d'être de bons chrétiens, qui donne l'impression d'être déjà engagés, fidèles, tout ce que vous voulez, mais en réalité, là où c'est le plus important, c'est vide. Il n'y a plus rien. Ce qui est important de savoir, c'est que jamais Dieu nous délaisse comme ça. C'est-à-dire qu'il permet toujours qu'à un moment donné, nous puissions recevoir une parole, une direction, quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, nous puissions nous remettre en question. Et c'est ça la grâce de Dieu. Nous ne sommes jamais totalement condamnés, jamais. Il est ce Dieu tellement rempli de grâce et de miséricorde que oui, il est le Dieu de justice. Et encore aujourd'hui, il haït le péché. Mais il aime le pécheur, la pécheresse. Et il nous tend encore la main aujourd'hui. Ce soir, il nous tend encore la main. Parce qu'il ne veut plus que nous soyons des gens de façade. Il ne veut plus que nous soyons des gens qui avons une apparence, une attitude. Il veut que nous puissions être des gens intègres, authentiques, vrais. Alléluia. Je ne pensais pas vous dire tout ça ce soir. Si vous voulez me virer, vous pouvez, la porte est pas loin. Puis j'ai garé ma voiture pas loin non plus. Dieu nous a fait à son image. Et par conséquent, il veut travailler au plus profond de nous-mêmes. Mais parce que nous sommes à son image, nous devons réagir comme lui réagit également. Et vous regarderez que Jésus, comme Dieu lui-même, dans sa parole, manifeste, a manifesté régulièrement ses émotions. Parfois c'était sa joie, son allégresse, parfois c'était la colère, même Jésus dans le temple, etc. Il a manifesté régulièrement cela. Et nous, si nous avons soif du Dieu vivant, nous avons tout simplement besoin de manifester ce que nous voulons recevoir. Alors c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on peut le redire, ben oui, mais il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît... Oui, mais Dieu attend que nous puissions tout simplement lui dire où nous en sommes et ce que nous voulons vraiment. Parce que si nous partons de ce principe-là, ben, c'est comme si, je ne sais pas moi, dans un couple, on a besoin parfois de se dire qu'il y a de l'affection encore. Il y en a qui sont mariés, quelques-uns. Ouais. Quand on est marié, on a besoin de dire, alors c'est souvent les femmes hein, qui, tu m'aimes, chérie. Alors, le mari va dire, bah oui, ça fait 30 ans déjà qu'on est mariés, si je t'aimais pas, il y a longtemps je serais parti. Mais c'est souvent les femmes qui ont besoin d'émotions, qui ont besoin de sentiments, qui ont besoin de... Mais je crois que même nous, les hommes, on a besoin de partager un petit peu ce que nous ressentons, un peu d'affection, un peu de quelque chose qui va montrer que l'on s'aime, qu'il y a encore de l'attachement, qu'il y a encore de l'amour, et que c'est pas simplement une habitude, vous voyez. Donc on va manifester quelque chose. Si on manifeste pas, bah, comment l'autre va pouvoir savoir qu'il y a vraiment de l'amour? C'est la même chose avec nos enfants. Si on part de ce principe-là avec nos enfants, on va dire... On va jamais leur dire qu'on les aime, on va jamais, je sais pas, fêter leur anniversaire, leur faire un petit cadeau, un petit présent pour... Ben non, on va leur dire, ben tu sais qu'intérieurement je t'aime. Tu sais qu'intérieurement je suis heureux de te voir. Ben oui, mais dis-le de temps en temps, ça peut faire du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors déjà, on le fait pas, effectivement, des fois avec nos époux, nos épouses, on le fait pas des fois avec nos enfants. Et c'est dommage, parce que je pense qu'ils en ont besoin aussi. Vous savez, j'ai toujours... dit, il est préférable de dire à ceux qui sont vivants aujourd'hui qu'on les aime plutôt d'attendre qu'ils soient morts pour le faire. Et souvent, quand on a des enterrements, on est là et on fait des palabres, et tu vas nous manquer, tu vas ceci, tu vas cela, mais aujourd'hui, si vous avez encore ceux qui vous sont proches à vos côtés, dites-le aujourd'hui que vous les aimez. Téléphoner à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui fait partie de votre famille et que vous savez que vous aimez, qu'il vous aime et que peut-être vous ne lui avez jamais dit, appelez-le, appelez-la, dites-lui combien vous l'aimez, tout simplement. Pourquoi on devrait se priver de cela? Dieu nous a créés comme ça. Et voyez, ce que l'on fait sur le plan humain comme ça, ce qui est nécessaire, mais c'est aussi nécessaire avec Dieu. Dieu a besoin de savoir ce qu'il y a dans nos entrailles. Dieu a besoin de savoir pourquoi on vibre, pourquoi on vit, qu'est-ce que l'on veut véritablement. Vous remarquerez dans les évangiles que c'est à chaque fois qu'un homme ou une femme a manifesté sa souffrance, sa douleur, sa colère, que la puissance de Dieu s'est manifestée. Prenez un Bartimée. Bartimée, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, s'il n'avait pas crié à un moment donné « Jésus, aie pitié de moi !» 3 reprises, même les apôtres sont venus. « Tais-toi un peu, là, ferme-la, c'est pas que tu te taises un peu, parce que là, tu gênes tout le monde, tu cries, là. » Lui, il a redoublé encore plus fort et encore plus fort. Nous, on lui aurait dit aujourd'hui en bon français, « T'es pas politiquement correct, là, t'es dans l'église, là. Le maître, il est là, qu'est-ce que tu te mets à hurler, à crier, c'est pas comme ça qu'on fait. » Oui, puis on l'aurait bien recadré. En réalité, il s'est approché de Jésus, et vous connaissez l'histoire, et vous savez comment les choses se sont faites. Prenez l'exemple de la femme à la perte de sang, prenez tous les exemples que vous voulez. Vous avez eu des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont simplement manifesté leur détresse. Quand il y a la manifestation de la détresse, il y a la manifestation de la compassion de Dieu. C'est automatique et systématique, parce que Dieu veut nous voir vrais, il veut nous voir intègres, il veut nous voir authentiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une chose qu'on a perdue dans l'Église. Pas ici, je sais, mais c'est l'authenticité. On n'est plus authentique, nous ne sommes plus des chrétiens authentiques, nous ne sommes plus des chrétiens vibrants vraiment pour le Seigneur. On est rentré dans un style, on est rentré dans une ferme façon un peu religieuse de fonctionner. On a nos traditions, on a nos habitudes, on a notre liturgie, et tout ça nous rassure. Ça rassure aussi les démons. Parce qu'ils savent qu'on ne va pas les déranger, qu'on ne va pas leur faire mal, qu'on ne va pas leur faire tort, et qu'on ne va pas les gêner, et que même parfois, ils viendront louer le Dieu avec nous. Je vous choque peut-être en disant ça, mais ça veut dire que parfois, on les aura au milieu de nous, et on n'aura même pas le discernement de les percevoir. Et parfois, on va se perdre du temps en pensant qu'il est là, qu'il y a des démons partout, et en fait, ils ne sont pas là du tout. On va manquer totalement de ce discernement-là. Nous avons besoin de revenir à l'authenticité de l'Évangile. Et c'est pour ça que ce thème ce soir de ce Dieu vivant, c'est juste le désir de ne pas se faire alimenter par toutes sortes de sources, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu, en fait, veut nous donner. Le monde cherche à nous désaltérer. La société cherche à nous désaltérer, le diable lui-même cherche à nous désaltérer. Nous avons sur Internet tellement de choses qui sont, même le plan spirituel, sont là pour nous désaltérer, mais c'est pas comparable du tout avec la source fraîche qui est Jésus, qui veut véritablement lui rafraîchir, régénérer et désaltérer notre âme. Et nous avons besoin en tant qu'Église de revenir à ça. Si je vous parle en tant qu'Église, c'est parce que moi, en tant que pasteur, c'est la première chose que j'ai commencé à faire il y a des années en arrière. Je me suis remis en question. Pourquoi je me suis remis en question? Tout simplement parce que je prêchais 9 fois par semaine. Et j'avais ma famille, et j'avais l'Église, et les chrétiens. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, je voyais rien se passer. Et j'ai dit, mais c'est pas ça l'Évangile, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche là, ça. Ça va pas, il y a vraiment quelque chose, je suis à côté de la plaque, c'est pas possible. Et j'étais rentré dans une habitude de vie, on avait fait de moi une machine à prêcher, une machine à faire des messages, imaginez 9 réunions par semaine, imaginez un peu. Donc il fallait préparer, ma femme elle me voyait pas, hein. C'est simple, hein. Mes enfants ne me voyaient pas, j'avais 3 enfants en bas âge, ils ne me voyaient quasiment pas, parce qu'entre les visites de la journée, entre le temps de préparer les messages, je rentrais tard le soir, les enfants dormaient, ma femme souvent dormait, le matin j'étais enfermé au bureau parce qu'il fallait que je me lève tôt pour préparer toute la journée, etc., je voyais à peine mes enfants, j'ai dit mais c'est pas la vie ça. Et au bout de quelques mois, j'ai commencé à péter un câble, j'ai dit mais c'est quoi l'histoire, c'est pas ça le ministère, c'est pas possible. Et puis, avec mes yeux, je prêchais la puissance de l'Évangile. Mais je voyais pas les gens se convertir. Je voyais pas les gens être renouvelés. Je voyais pas les gens véritablement être guéris. Il manquait vraiment quelque chose. Et un jour, le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit, va falloir que tu te remettes en question. J'ai dit, ben oui, mais je sais pas par où commencer. Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Comment Et là, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur, à travailler mon âme, à me faire prendre conscience, de retrouver un équilibre de vie, et puis de prendre conscience aussi au niveau de sa parole, que moi je la comprenais d'une certaine manière, je l'interprétais d'une certaine manière, et peut-être que ce n'était pas cela toujours ce qu'il fallait prêcher. Alors je disais, Seigneur, mais j'ai besoin de quoi ? Il me dit, mais t'as besoin de que mon esprit éclaire une révélation quotidienne de ma parole. Quand j'ai commencé à découvrir la révélation de la lecture dans la parole de Dieu, ça a juste été quelque chose de merveilleux. Il y a des textes que j'avais lus 1000 fois, peut-être moins, mais je les avais toujours pas compris. Et quand j'ai permis au Saint-Esprit de faire ce travail dans ma vie, j'ai repris la Bible, j'ai lu, et il y a comme des écailles qui sont tombées de mes yeux, et j'ai dit, mais ça veut dire ça en fait. Et des fois je prêchais sur ces passages, et j'étais complètement à côté de la plaque. On a chacun d'entre nous, frères et sœurs, besoin d'un temps de régénération, d'un temps de renouvellement, d'un temps de fraîcheur, quelque chose qui vient bouleverser notre vie. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, content de votre vie spirituelle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de votre vie de couple. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de votre relation avec Jésus. Mais peut-être que vous êtes satisfait et c'est très très bien si vous l'êtes. Mais si toutefois il y avait un petit peu d'attente, si toutefois il y avait quelque chose là qui voudrait peut-être vous dire, mais il y a peut-être plus à obtenir, j'aimerais vous dire qu'avec Jésus-Christ ce soir, c'est possible. Parce qu'il est là, parce qu'il n'a pas changé, parce que véritablement, il y a une action puissante qu'il veut déverser encore dans notre vie. C'est pour ça que le verset et le passage biblique que j'aimerais vous laisser ce soir sur votre cœur, c'est le psaume 51, le verset 12, que certainement vous le connaissez. Il y a même un chant là-dessus. Je ne sais pas si tu connais ce chant. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu connais ce chant, non ? Tu connais pas ? Non ? Un petit cœur. Alors il y a celui-ci, oui c'est ça, c'est « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est juste la base essentielle de ce que nous devrions vivre chaque jour. Quand vous regardez la vie de cet homme, David, regardez, tout commence dans sa vie par un désir. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Et le désir de se présenter devant Dieu en disant, je veux que mon esprit soit réceptif à ce que tu vas me dire, même si ça doit me déranger, même si ça doit me mettre mal à l'aise, même si peut-être tu vas toucher des choses dans ma vie qui vont me fatiguer, peut-être me décourager, parce que c'est des choses peut-être que j'ai toujours essayé de cacher, mais toi tu mets le doigt dessus. Mais c'est nécessaire si nous voulons avancer avec le Seigneur. C'est indispensable, sinon nous ne pourrons jamais aller plus loin. Et David va avoir ce cœur, « Oh Dieu, oui, crée en moi ce cœur pur, renouvelle en moi cet esprit bien disposé. » Parce qu'ensuite, il va tout simplement analyser sa vie, il va analyser son cœur, et il ne va pas simplement, il le sait, il ne peut pas donner une apparence devant le Seigneur. Vous savez, cette apparence qu'on a parfois quand on se retrouve à l'église le dimanche où on croise les frères et les sœurs en disant « ça va mon frère par la grâce, ça va ma sœur par la grâce de Dieu ». Mais en réalité, frères et sœurs, ça c'est des slogans qu'on a aujourd'hui. C'est plus quelque chose qu'on vit véritablement, ce sont des slogans, on en parle comme ça. En réalité, la grâce de Dieu, elle va tout le temps. On n'a pas de problème avec la grâce de Dieu. Le problème, il est où ? C'est nous. Nous, parfois, on ne va pas bien, mais on n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler, parce qu'on a honte ou parce qu'on ne peut pas montrer dans l'Église que l'on ne va pas bien, qu'on est mal et qu'on a peut-être besoin d'aide. Et voyez, on se crée une enveloppe apparente, on a un masque qui n'a plus rien à voir avec celui du Covid, mais c'est un masque qui vient cacher la réalité. Et à un moment donné, je pense que Dieu a besoin de nous dire que nous devons faire tomber les masques. Pour être authentique avec lui. Si on n'est pas authentique avec lui, on percevra pas et on recevra pas toutes ces bénédictions et ces grâces qu'il a prévues en avance pour nous. On les recevra pas. Parce que le chemin ne sera pas frayé. On a besoin de nous-mêmes, de nous dépouiller nous-mêmes. L'Église a besoin. Et quand je dis l'Église, c'est nous, les hommes et les femmes, nous, les pasteurs, les enseignants, on sera jugés plus sévèrement que vous. Vous savez, c'est écrit. Donc moi, aujourd'hui, c'est fini. Je suis plus là pour prêcher, pour brosser dans le sens du poil. Vous voyez? Ça, c'est fini, c'est terminé. Je suis pas là, je suis plus là aujourd'hui pour plaire aux chrétiens, pour donner une parole qui soit douceâtre et qui ne crée pas de vagues, etc. Je suis pas là pour provoquer non plus. Quoi, de temps en temps, ça me plaît quand même. Mais je suis pas là pour ça. Mais en réalité, je suis là maintenant vraiment de tout mon cœur depuis des années, depuis que le Seigneur a renouvelé ma vie pour prêcher la vérité. Parce que je sais qu'un jour, Dieu me demandera compte de la vérité. T'as prêché pour plaire aux gens, t'as prêché pour plaire à ton auditoire, t'as prêché pour pas avoir de soucis, pour pas avoir de remarques, pour pas avoir de reproches, t'as prêché parce que tu voulais que ça coule tout simplement sur des sujets qui sont agréables, mais en réalité, à force de prêcher sur des sujets qui sont agréables, on se détourne de la vérité et on n'amène plus aujourd'hui le corps de Christ, le peuple de Dieu, à s'humilier devant le Maître, à prendre conscience de nos responsabilités et peut-être parfois de nos travers, peut-être de certains chemins qu'on a empruntés qui ne sont plus les chemins de Dieu. Et notre rôle, c'est de recentrer, de ramener, pas à nous, ni à un mouvement, ni à une église, quelle qu'elle soit, mais à Jésus-Christ, des hommes et des femmes. Parce qu'encore une fois, il revient bientôt. Il faut que nous soyons prêts et que nous ne fassions pas partie des gens qui vont rester. Parce que je peux vous assurer que des gens qui vont rester dans les églises, il va y en avoir. Et il va y en avoir un paquet. Et ça va être choquant. Pour beaucoup, pour plusieurs, pour des familles. Ça va être choquant de voir des hommes et des femmes qui sont là peut-être depuis 40 ans, 30 ans, 10 ans, ne pas être enlevés au moment où le Seigneur va venir. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire le point avec Dieu encore ce soir. De dire, Seigneur, s'il y a des choses qui vont pas bien dans ma vie, il faut que j'arrête de les cacher. Parce qu'en réalité, devant toi, je peux rien cacher. Tu sais tout. Tu vois tout. Tu vois mes failles. Tu vois là où ça va pas. Donc, aujourd'hui, il faut que j'arrête de me cacher. J'ai besoin d'un renouvellement. J'ai besoin d'être régénéré. Je ne veux plus être cet homme. Je ne veux plus être cette femme qui est là à me cacher, qui est là à mettre un masque, un visage sur... Non, je veux être authentique avec toi comme je veux apprendre à être authentique avec mes frères et mes sœurs. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et David va plus loin, il va réclamer la soif. C'est encore, comme je disais tout à l'heure, juste bon de pouvoir exprimer devant Dieu ce que nous ressentons. Ésaïe va dire « Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Est-ce que nous en sommes là encore aujourd'hui? Est-ce que notre âme le désire? H24. Je dis pas qu'il faut vivre constamment comme des pieux et je dis pas qu'il faut vivre constamment dans une attitude religieuse et mais quelque part simplement est-ce que notre âme désire cette fraîcheur de l'Éternel sur notre existence? Est-ce que notre esprit le cherche au-dedans de nous-mêmes? Est-ce que quand il y a quelque chose de mal qui se passe, est-ce que quand il y a quelque chose qui n'est pas correct, que ce soit dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, est-ce que nous sommes irrités? Est-ce que nous sommes en colère, cette sainte colère qui ne supporte plus le mal, qui ne supporte plus l'indifférence, qui ne supporte plus l'indignation, qui ne supporte plus le péché, qui ne supporte pas toutes ces choses mauvaises qu'on fait supporter à d'autres personnes, etc. Est-ce qu'on est révolté contre ces choses-là ou est-ce que finalement on s'est habitué? Voilà. Parce que le fait de s'habituer, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on devient tolérant avec nous-mêmes. J'avais quelqu'un encore au téléphone sur la route tout à l'heure. C'est pas quelqu'un de la région ici, de l'église de chez nous, mais que je suis depuis pas mal de temps, qui nous ont demandé de les suivre sur le plan spirituel. Et sur une situation particulière, cette personne me dit, mais Pasteur Emmanuel, comment je dois ressentir qu'il faut que je demande pardon, comment qu'il faut que je sois pour que ça porte du fruit, comment c'est, j'arrivais pas à comprendre sa question parce que pour moi ça semblait tellement évident. Et lui il me dit mais il faut un niveau spirituel pour pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Mais je lui dis, j'ai pas de niveau spirituel. Si tu as blessé quelqu'un, ton attitude, c'est d'aller confesser ta blessure, ton offense, ton péché à cette personne-là et de lui demander pardon. Et pour cela, il faut être juste sincère, authentique, vrai, honnête dans ta démarche. Si tu prends les choses juste un peu à la légère, ben c'est clair que ça ne passera pas. Et ça veut dire quoi être authentique? Ben ça veut dire que déjà, toi, tu fais une démarche de pardon parce que tu as réalisé qu'il y avait un remords. Tu es pris d'un remords. Il y a quelque chose qui te culpabilise. Et c'est bien d'être culpabilisé dans ce cas-là. Parce que ce que tu as fait est mal. Mais le problème, vous savez, qu'on a aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'on a des chrétiens qui font des choses mal, mais il n'y a plus de remords. Il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de gêne, ça dérange plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Et au final, vous savez quoi? On entend parfois même des chrétiens s'auto-justifier. De dire, ben oui, mais pasteur, si vous saviez ce que j'ai vécu, si ce qu'on m'a fait, machin, etc. Donc au travers de ce que tu as vécu, au travers de l'histoire qui est la tienne, tu vas donc légiférer toi-même, et t'auto-justifier à la place de Dieu toi-même en disant « bah oui, je me permets finalement certains écarts parce que j'ai vécu ça, ou on m'a fait ceci, ou on m'a fait cela. » Mais frères et sœurs, est-ce qu'on va un jour pouvoir expliquer ça au Seigneur? Est-ce qu'on va pouvoir dire « Seigneur, tu sais, je me suis permis quand même de voler de temps en temps parce que si tu savais tout ce qu'on m'a pris, je me suis permis de tromper ma femme ou mon mari parce que quand même, il n'était pas toujours, ou elle n'était pas toujours top, et puis... Mais est-ce qu'on va pouvoir un jour expliquer ça au Seigneur comme ça? Je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire au Seigneur qu'on a laissé le péché entrer dans notre vie et que finalement, on finit par le caresser doucement parce qu'on n'est plus révolté, on n'a plus de haine contre le péché. Avant, on était profondément dérangé, maintenant ça nous gêne de moins en moins. Pourquoi? Parce que notre âme a commencé à s'habituer. Frères et sœurs, il y a besoin de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Il y a besoin de nettoyer nos cœurs, de nettoyer nos vies. Il y a besoin de purifier tout ça parce que Jésus est à la porte et il veut que son Église soit prête à partir avec lui. Et il y a une chose que nous devons nous rappeler. Dieu a en horreur le péché. Il n'a pas changé avec cette affaire-là. Il a le péché en horreur. Vous pourrez lui raconter tout ce que vous voulez, qu'on est dans une génération bizarre aujourd'hui, où il y a tellement de permissivité, où l'homosexualité, où tous les lobbies que vous voulez imaginer, il le sait tout ça. Il le sait tout ça. Mais j'aimerais juste vous dire, à l'époque de la Rome antique, c'était pas mieux que maintenant. Et c'était peut-être tout autant perverti que maintenant. Donc, toutes les histoires humaines, Dieu les connaît, il sait. On n'a pas d'excuses à donner. Oui, mais tu vois, là, j'étais faible parce que il sait tout ça. Il le sait. Mais c'est à nous de déterminer notre vie, frères et sœurs. C'est à nous de prendre un nouvel engagement. C'est à nous de savoir quelle décision nous voulons prendre et si nous voulons que notre vie soit vraiment régénérée, renouvelée et qu'on soit des hommes et des femmes qui marchions à l'opposé de cette mentalité, de cette société aujourd'hui. Avec sagesse, avec intelligence, pas de manière brutale, mais juste avec l'intelligence que Dieu veut nous donner. Les fils de Corée ont recherché cette présence de Dieu. Dans le psaume 42, ils vont dire « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » David, dans le désert, au psaume 63, il va dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Vous voyez, il n'y a pas que son âme. Il n'y a pas que son intelligence. Il n'y a pas que son esprit. « Mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. » Alors, comment nous pouvons rentrer dans cette présence? Parce qu'il ne suffit pas simplement peut-être de mettre certains points comme ça en exergue et de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Non, moi, souvent, je dis aux prédicateurs que j'enseigne, je dis arrêtez de dire aux gens simplement ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Montrez-leur comment il faut le faire. Voilà, la parole de Dieu nous donne des directives très simples. Et nous allons le voir tout simplement. Chercher ardemment, c'est quoi? Au verset 3, il est dit « Je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Et voyez, tout commence par une attitude d'humilité et de simplicité. Revenir aux pieds du Seigneur et revenir à l'adorer. Je ne dis pas le louer, je dis l'adorer, parce que c'est deux choses différentes. Nous, on est les champions de la louange, nous les évangéliques. Mais on n'est pas tant les champions de l'adoration. C'est facile de louer. C'est beaucoup plus difficile d'adorer. Parce que vous ne pouvez pas adorer si vous n'êtes pas authentique. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'êtes pas vrai. Louer, oui, c'est facile. Parce que louer, c'est quoi? Louer, c'est chanter les louanges de Dieu, chanter les louanges de quelqu'un, vanter les mérites de quelqu'un. Donc louer, c'est je vante les mérites de Dieu, je chante des paroles, parce que oui, Dieu, comme on l'a chanté, il est infiniment grand. Oui, Dieu est puissant. Oui, Dieu est ceci. Oui, Dieu a fait cela dans ma vie. Je vante les mérites de Dieu. Ça, c'est louer. C'est facile. Parce que on vante ce que Dieu a accompli dans notre vie. Mais l'adoration, à mon sens, c'est autre chose. L'adoration, c'est quand on rentre dans sa présence, dans le Saint des Saints, et que là, on n'a pas forcément besoin de paroles pour adorer. On entre tout simplement dans sa présence, et là, on est prosterné devant lui. Et si ce n'est pas nos genoux qui sont prosternés, notre âme, notre esprit, notre cœur est prosterné devant sa majesté, parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il est la majesté. Et oui, s'il y a des péchés qui traînent, eh bien on est mal à l'aise. On ne peut pas adorer avec des péchés qui transitent dans notre vie. On ne peut pas adorer de manière authentique si nous sommes des hommes et des femmes qui ne n'ont qu'une apparence de la vie chrétienne. Nous allons chanter, nous allons prier, nous allons louer, nous allons faire plein de choses, mais nous n'allons pas être des adorateurs. Or, Dieu cherche quoi? Des hommes et des femmes qui soient des adorateurs en esprit et en vérité. Jamais dans sa parole il n'est écrit que Dieu cherche des loueurs, ou des louangeurs, ou des tout ce que vous voulez. Il cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce que du temps de notre vie ici, c'est juste la formation. Une fois qu'on partira d'ici, on va adorer H24, 7 jours sur 7. Donc si on n'est pas prêt à le faire ici, comment on va le faire là-bas? Qu'on soit prêt, pour qu'on soit préparé, pour que notre cœur soit déjà dans cette atmosphère spirituelle. Alors commençons à l'adorer.